Alors écoutez, donc les dates pour situer Camus, c'est 1913-1960. Et je vous propose quatre moments différents. Un que j'appellerais Noce, en lien direct avec le livre Noce. Une deuxième étape, le divorce. C'est l'étape de l'absurde. Et une troisième étape, la révolte. Noce, le divorce, la révolte. Puis quatre remarques de conclusion. Alors, au sujet des différents livres, de ces différentes étapes, j'essaierai de retracer le parcours d'un athéisme qui n'a pas toujours été le même pour lui. Alors, Noce, quand il écrit Noce, il a 22 ans. C'est un de ses premiers livres. Et vers 1938, et c'est à l'âge de 17 ans que Camus est frappé par la tuberculose. C'est important de savoir justement quand on lit Noce, quand on lit certains de ses ouvrages comme ça. Et la tuberculose qui va beaucoup l'handicaper, il ne pourra pas se présenter à l'agrégation de philosophie à cause de sa maladie. En même temps que Noce, il y a un autre livre qui est paru, et aucun d'entre vous ne l'a lu, si j'ai bien compris, mais vous avez peut-être oublié L'envers et l'endroit. Non? L'envers et l'endroit, qui date de la même époque, et même un peu avant Noce, c'est écrit en 35-36, et c'était réédité en 1958 avec une préface, donc 20 ans plus tard, qui est un témoignage autobiographique et très très personnel. C'est un très très beau livre. Et je vous rappelle, mais vous l'avez peut-être entendu, que le rappeur Abdel Malik, ça vous dit quelque chose peut-être? A été profondément, je dirais pas converti, mais remué, enthousiasmé par ce livre-là de Camus, qu'il est le premier qu'il ait lu de Camus, et ça l'a soulevé et marqué pour sa vie entière. Il a publié chez Fayard, Abdel Malik, un livre consacré à Camus, qui s'appelle Camus ou l'art de la révolte. Il a publié plusieurs livres, hein, d'ailleurs. C'est quelqu'un. Moi, je me rappelle une émission de télévision, mais à une époque, on parlait pas vraiment encore de lui, hein. Et il était sur un plateau avec d'autres jeunes, genre rappeurs, et il a fait une déclaration de foi, mais comme musulman, mais soufiste. Les gens étaient muets. Il a eu le courage, devant la télévision, de manière très inattendue, de dire sa foi et. Et pourquoi il était musulman soufiste, hein, soufiste. Alors, Noce, c'est l'amour de cette terre. Dans ce livre-là, il dit qu'il veut vivre des noces avec la terre. Il parle d'un accord, il parle d'une alliance étroite. Il veut vibrer à la parenté du monde, mais il utilise le mot noce très souvent dans ce livre. Alors j'ai extrait quelques citations significatives. Par exemple, alors le soleil, la mer, le ciel, la terre, c'est des données constantes dans l'œuvre de Camus. Moi, je dis même que son héros principal, son personnage principal, c'est le soleil. Donc c'est inséparable de l'Algérie, hein, ce qu'il a vécu. On ne comprend pas son œuvre sans cela. Et il est né en Algérie, comme Saint-Augustin, auquel il a consacré son mémoire d'études supérieures, hein, Saint-Augustin et Plotin. Mais enfin, Saint-Augustin. Alors, dans Noce, il écrit: cette entente amoureuse de la terre et de l'homme, délivrée de l'humain, ah, je m'y convertirais bien si elle n'était déjà ma religion. C'est vraiment sa foi, sa religion. Ailleurs, et voici qu'à nouveau cette odeur, c'est l'odeur de la terre après la pluie en automne, consacre les noces de l'homme et de la terre et fait lever en nous le seul amour vraiment viril en ce monde, périssable et généreux. Donc on retrouve là cette idée de noces. Et alors s'ajoute à cela, et c'est une autre citation, « Si je refuse obstinément tous les plus tard du monde, c'est qu'il s'agit aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente. Il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie. Elle est pour moi une porte fermée. » Et avec ça, le monde est beau et hors de lui, point de salut. Vous voyez, il y a tout le temps ce langage très religieux qu'il utilise pour célébrer ses noces, mais pour dire il n'y a pas de salut en dehors de ce monde. Dans l'envers et l'endroit, dans cette préface de 1958, il parle de ce monde dont il faisait sa divinité. Il y a une exaltation et une divinisation du monde. Et encore une citation qui est assez extraordinaire, je trouve. « S'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie et de se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci. » Espérer une autre vie, c'est pour lui désespérer de cette vie. On doit se contenter de cette vie, c'est elle dans laquelle il faut placer son espoir. Et alors, la citation très étonnante dans Nos, « La vie d'un homme s'accomplit sans le secours de son esprit. » Il vit vraiment à travers Nos, et ses Nos avec la terre, quelque chose de très instinctif, de très sensuel, et qui doit bannir l'esprit, la distance, l'objectivation des êtres ou des choses. Il y a donc pour Camus une incompatibilité entre, je ne dirais pas Dieu, parce qu'il ne parle pas tellement de Dieu, vous avez remarqué dans ses citations. Il parle surtout d'une vie après la mort, d'un au-delà. Il y a une incompatibilité entre le ciel, la vie éternelle, et les nourritures terrestres. L'amour du présent et l'amour d'un au-delà. Cela pour lui s'oppose à un carpe diem, et croire en une vie éternelle serait renoncer au présent, ou déprécier le présent, ou ne pas se réaliser dans le présent. C'est une forme d'aliénation religieuse qui a été très souvent dénoncée. Le ciel ou la terre, l'au-delà ou le prochain, l'au-delà ou le présent, qui caractérise selon l'athéisme de Camus la foi religieuse. Il y a une aliénation religieuse pour Camus et pour beaucoup d'athées contemporains de Camus, hein. Le croyant, c'est quelqu'un qui sacrifie le présent à l'au-delà, les nourritures terrestres aux nourritures spirituelles, le corps à l'esprit, et qui renonce à une partie de sa réalité. Donc un christianisme désincarné, une spiritualité exsangue, une exaltation de l'ascèse et du célibat, à bien des égards, il faut le reconnaître, déformer, défigurer la vérité chrétienne et évangélique. Et il n'y a qu'à chanter les trois quarts de nos cantiques pour voir qu'on parle de l'au-delà, et enfin la patrie céleste, ce sera si vrai, les âmes, etc. Parfois, quand j'entends ces cantiques, je me demande pourquoi on ne se suicide pas tout de suite, si c'est si bien que ça. Allons-y, allons-y gaiement. Alors, un christianisme désincarné, avec la primauté exclusive et totalitaire du spirituel, Simone de Beauvoir a écrit un livre qui s'appelle « Quand prime le spirituel ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, où elle montre les catastrophes qui surviennent dans une vie quand prime le spirituel. Quand on refuse de voir le monde qui est le nôtre. Et dans un sens, naturellement, cette spiritualité très souvent chrétienne, aussi bien catholique que protestante, hein, est tout à fait contraire à la symbolique de l'incarnation. Je ne dis pas l'incarnation, parce qu'on en fait ce qu'on veut, l'incarnation, mais à la symbolique de l'incarnation. La parole a été faite chair, c'est dans le prologue de l'évangile de Jean. Mais effectivement, il y a dans la théologie chrétienne, dans la spiritualité chrétienne, dans les cultes et dans les messes, tout un langage, toute une réalité qui nous tourne exclusivement vers le ciel. J'ai relevé une parole dans l'Épître aux Colossiens, c'est au chapitre 3, le verset 1, B et 2. Recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ est assis à la droite de Dieu, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non pas de ce qui est sur la terre. C'est épouvantable, cette chose-là. Heureusement qu'on ne l'a pas appliquée, d'ailleurs. Mais ça nous conduit dans cette spiritualité évanescente. Alors, on se rappelle le cri de Gide, qui est le même. À l'époque, il pensait aussi lui avoir la tuberculose. Gide, les nourritures terrestres. Il écrit ça exactement dans le même sens que Camus écrit Nos ou l'envers et l'endroit. Et puis, Simone de Beauvoir, c'est la même chose. Si, je vais vous lire un passage de Simone de Beauvoir, de ses mémoires. Hein. Un soir à Mérignac, Mérignac, la famille Beauvoir avait une maison où ils allaient surtout passer leurs vacances. Simone de Beauvoir s'accoude à la fenêtre de sa chambre, tente une timide prière qui s'envole aussitôt. Elle était très 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 croyante, hein. De manière même excessive, Simone de Beauvoir, dans sa jeunesse, dans son enfance. Elle dit ceci. Je plongeais mes mains dans la fraîcheur des lauriers cerises, j'écoutais le glouglou de l'eau, et je compris que rien ne me ferait renoncer aux joies terrestres. Je ne crois plus en Dieu, me dis-je, sans grand étonnement. C'était une évidence, si j'avais cru en lui, je n'aurais pas consenti de gaieté de cœur à l'offenser. J'avais toujours pensé qu'au prix de l'éternité, ce monde comptait pour rien. Il comptait, puisque je l'aimais, et c'était Dieu soudain qui ne faisait pas le poids. Il fallait que son nom ne recouvrît plus qu'un mirage. C'est étonnant, cette approche, c'est tout à fait la même chose pour Gide et ce sera la même chose pour Camus, sauf que Camus n'a pas du tout été pratiquant. Il a fait 2 années de catéchisme, il a fait sa communion, comme on dit, catholique donc, et puis après il était envoyé au lycée et il n'a plus jamais fréquenté le monde des églises. Alors, pour passer de cette première étape, nos, je crois qu'on voit bien le paysage, hein, à la deuxième étape que j'appelle le divorce, il faut en quelque sorte un trait d'union. Et ce trait d'union est représenté par un ouvrage de Camus qui est très beau, Les lettres à un ami allemand. C'est des lettres qu'il écrit pendant la clandestinité, hein, comme résistant. À un ami allemand en 1943 et 1944, et au moment où il est à la tête du réseau de résistants qui s'appelle Combat, tu m'en parlais tout à l'heure, et tu en feras une citation, je crois. Et dans ses lettres à un ami allemand, la violence nazie, la violence de la guerre, le fait sortir de cette espèce d'abrutissement qu'il a connu avec Nos. Et revenir, c'est un retour à l'esprit. Il dit lui-même, nous renaissons à l'esprit. Et pour combattre la fureur de la guerre, la fureur nazie, il veut promouvoir l'esprit, mais en même temps l'amour de cette terre. Si vous voulez, ce qui est très étrange dans la pensée de Camus et qu'on a de la peine à comprendre, c'est que l'esprit et l'amour des paysages sont des constantes qui transcendent l'histoire et ses horreurs. Donc il refuse une certaine philosophie, souvent marxiste, parfois existentialiste, à travers laquelle l'homme se réaliserait dans l'histoire et par l'histoire. C'est pas du tout un spiritualisme évanescent, il va pas tomber dans le contraire de ce qu'il voulait avant. Je vous lis un extrait, moi je vous conseille les lettres à un ami allemand, hein, c'est très très beau. Voici un paysage de Guadeloupe. Alors il écrit à cet ami allemand, il y a pourtant quelques-uns de ces lieux en Europe que vous et moi avons vus ensemble. Je n'avais pas l'idée en ce temps-là qu'un jour, il nous faudrait les délivrer de vous. Et encore, à certaines heures de rage et de désespoir, il m'arrive de regretter que les roses puissent encore pousser dans le cloître de San Marco, les pigeons se détacher en grappes de la cathédrale de Salzbourg et les géraniums rouges pousser inlassablement sur les petits cimetières de Silésie. Mais à d'autres moments, et ce sont les seuls vrais, je m'en réjouis, car tous ces paysages, ces fleurs et ces labours, la plus vieille des terres, vous démontrent à chaque printemps qu'il est des choses que vous ne pouvez étouffer dans le sang. C'est sur cette image que je puis finir. Il ne me suffirait pas de penser que toutes les grandes ombres de l'Occident et que 30 peuples sont avec vous, je ne pouvais pas me passer de la terre. Et je sais ainsi que tout dans l'Europe, le paysage et l'esprit, vous nient tranquillement, sans haine désordonnée, avec la force calme des victoires. Les armes dont l'esprit européen dispose contre vous sont les mêmes que détient cette terre sans cesse renaissante en moisson et en corolle, la lutte que nous menons à la certitude de la victoire, puisqu'elle a l'obstination des printemps. C'est très beau, mais vous voyez que cette manière qu'il a d'associer, c'est très camusien, on le verra jusqu'à la fin de sa vie, l'esprit et les paysages. Alors, ce retour à l'esprit est indispensable, j'ai envie de dire, pour comprendre l'étape de l'absurde. Parce que l'absurde, c'est l'étape où le monde, où les paysages rencontrent la réalité de l'esprit. Alors, cette étape de l'absurde, il l'appelle lui-même le divorce, qui est quand même intéressant. Je ne sais pas si on a assez souvent remarqué ça. Et l'étape de l'absurde est marquée par trois genres littéraires. Un essai, le mythe de Sisyphe. Donc, vous ne l'avez pas lu, si je comprends bien.
Moi, j'ai
Oui,
essayé, mais c'est
oui.
un peu long.
Oui,
J'ai pas
t'as
continué.
pas mordu vraiment. C'est, je crois, de tous mes livres, avec un livre de Berdiaev, celui que je ne peux même pas transporter parce qu'il est en pièces détachées, tant je l'ai travaillé, tant j'ai tourné les pages, tant je les ai annotées. Donc, le mythe de Sisyphe, 1943. Et puis, un roman, alors beaucoup d'entre vous l'ont lu, c'est L'étranger, 1942. L'étranger, le titre est intéressant parce que ce que vit le héros, c'est d'être étranger au monde, à lui-même, à tout. Et c'est le grand thème de l'aliénation. En allemand, aliénation se dit Entfremdung. Fremd, ça veut dire l'étranger, hein. Et l'aliénation se dit aussi Entäußerung, l'extériorisation. C'est étrange parce que la difficulté de la traduction de Hegel et de tous ceux qui utilisent ce mot en français, c'est qu'on utilise le même mot pour dire et l'Entfremdung, le fait de devenir étranger, et l'Entäußerung, le fait de s'extérioriser. L'incarnation est une Entäußerung, par exemple. Donc il y a une aliénation positive, s'incarner en quelque sorte, et une aliénation négative, devenir étranger. Et le premier qui en français a introduit les deux sens de ce mot dans ses textes, c'est Rousseau. Quand vous lisez le contrat social, vous voyez qu'il passe de temps en temps d'un sens positif de l'aliénation à un sens négatif. Ça ne se faisait pas avant. Le mot aliénation n'avait qu'un sens positif. Et donc Rousseau est celui qui a permis de passer à cette notion d'aliénation dans son sens négatif. Alors le mythe de Sisyphe, c'est la question du suicide, hein. C'est le refus du suicide face à l'absurde. On trouve un peu le même raisonnement que dans Nos. Vous voyez, il faut pas fuir notre terre. Là, c'est pas parce que le monde est absurde ou qu'on le trouve absurde qu'il faut s'en échapper par le suicide. Et le livre commence par cette fameuse phrase: il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Alors, on pourrait faire, je ne ferai pas du tout aujourd'hui, une présentation de la pensée et de l'œuvre de Camus à travers le thème de la vie, l'affirmation de la vie. Bon, les lettres à un ami allemand, vous venez de le voir, contre la guerre et la violence aveugle et meurtrière, le mythe de Sisyphe contre le suicide, l'homme révolté contre les souffrances injustes et symboliquement la maladie dans la peste. L'homme révolté, c'est le refus du meurtre. Vous savez, c'est là qu'il dit qu'il faut préférer la révolte à la révolution. Parce que la révolution sacrifie des hommes au nom de l'homme. Au nom de l'idée de l'homme, on est prêt à tuer des hommes. Au nom d'une idée de la liberté, on est prêt à supprimer des libertés, etc., etc. Et puis, il y a ces réflexions sur la guillotine. Il s'est opposé à la guillotine. Il a fait paraître un livre avec Arthur Koestler qui lui faisait des réflexions sur la peine capitale en Angleterre. Donc là encore, une affirmation de la vie. J'avais fait une fois une conférence sur les trois Alberts qui affirment la vie: Albert Camus, Albert Schweitzer et Albert Einstein, qui tous les trois, à leur manière, ont lutté pour une affirmation de la vie. Alors le divorce, c'est une opposition entre l'homme et le monde. Donc l'absurde n'est pas dans l'homme, ni dans le monde, mais dans leur relation, ou plus exactement, dans leur absence de relation. C'est ça, c'est le divorce. Le sentiment de l'absurdité, il écrit ceci, Camus, ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor. C'est ce qu'il écrit dans le mythe de Sisyphe. Et il refuse dans le mythe de Sisyphe ce qu'il appelle le suicide philosophique. C'est précisément l'idée d'échapper à ce monde et à l'absurde en postulant un au-delà où tout sera merveilleux. Il appelle ça le suicide philosophique. Les croyants qui espèrent en un au-delà qui compenserait notre monde pratiquent un suicide de la pensée, un suicide philosophique. Donner un sens à notre vie absurde en bondissant dans l'au-delà, c'est trahir notre condition mortelle. L'homme absurde, écrit-il, veut savoir s'il est possible de vivre sans appel. Ou ailleurs, la précipitation dans le divin ou l'éternel, le saut, comme il l'appelle souvent, la dérobade, comme il dit aussi, l'évasion, la tricherie, sont une fuite devant notre condition de mortel. Et en tête du mythe de Sisyphe, Camus met une citation de Pindare, le poète grec, hein, d'avant Jésus-Christ: Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. C'est une citation que je ne sais pas si on l'a toujours relevée, mais elle est en tête du mythe de Sisyphe. Le suicide philosophique, c'est le mouvement par lequel l'esprit humain s'en remet à un au-delà et à un Dieu. L'absurde, écrit-il, c'est la raison lucide qui constate ses limites. Il y a dans la soif d'un au-delà une volonté d'illimité pour l'être humain. La religion, c'est donc un refuge commode, fallacieux, un mensonge. Aucun d'entre vous n'a lu le Malentendu, la pièce. Hein? le malentendu, c'est donc la pièce de l'absurde. Je vous ai bien dit ça, non? Je vous ai dit, il y a un essai, le mythe de Sisyphe, un roman L'étranger, je n'ai pas dit le théâtre. Il y a une pièce de théâtre, c'est le malentendu et aussi Caligula. Hein? Donc il y a, vous voyez, un essai, un roman, une pièce de théâtre qui illustre l'époque de l'absurde. Et il y a l'héroïne, on peut dire, du malentendu qui s'appelle Martha et qui dit à un moment, c'est très fort, c'est très important, « Je hais ce monde où l'on en est réduit à Dieu. » Ce monde est tellement horrible, ce monde est tellement terrible, ce monde est tellement injuste, ce monde est tellement violent, qu'on n'a pas le choix. On espère en un Dieu et en une éternité où le monde sera différent. Je hais ce monde où l'on en est réduit à Dieu. On est presque condamné à Dieu. Vous savez que Feuerbach, qui est le maître à penser, Ludwig Feuerbach, de Karl Marx pour les questions religieuses, hein, du jeune Marx, et Marx n'a rien changé à ce que disait Feuerbach dans son livre L'essence du christianisme, Das Wesen des Christentums. Eh bien, Feuerbach a écrit l'homme pauvre possède un Dieu riche. On cherche en Dieu ce qu'on n'a pas en nous-mêmes. Et Marx va reprendre ça, mais en l'appliquant au monde social, économique. L'homme pauvre matériellement possède un Dieu qui va lui offrir dans le paradis tout ce qu'il n'a pas eu sur cette terre. Feuerbach l'entendait dans un sens psychologique. L'homme pauvre, intellectuellement, spirituellement, possède un Dieu qui a toutes les qualités qui devraient être les nôtres. L'homme pauvre possède un Dieu riche. Je hais ce monde où l'on en est réduit à Dieu. C'est magnifique comme affirmation, c'est très fort. L'absurde, alors ça, Camus le précise bien, n'est qu'un point de départ dans son raisonnement. Ça aussi, on n'a pas toujours souligné. Hein. Ça n'est pas la conclusion. Il le dit, l'absurde est ici considéré dans cet essai comme un point de départ. En ce sens, on peut dire qu'il y a du provisoire dans mon commentaire. On ne saurait préjuger de la position qu'il engage. Donc, d'emblée, Camus sentait bien qu'il allait dépasser ce moment de l'absurde et que pour lui, ça n'est qu'une étape et un point de départ. C'est intéressant parce qu'on va arriver à la phase de la révolte, mais si vous comparez le mythe de Sisyphe et l'homme révolté, ben en gros, on peut penser que ce n'est pas le même auteur qui a écrit les deux livres. Si dans 2000 ans, on trouve ces livres sans nom d'auteur, on dira l'un est de Camus et pas l'autre. Hein? De même pour Sartre, si vous lisez L'être et le néant, puis Critique de la raison dialectique, ça ne peut pas être du même homme, ni les concepts, ni le vocabulaire, ni les idées. C'est ce qui me fait beaucoup douter parfois des arguments qu'on utilise pour dire que certaines épîtres de Paul ne sont pas de Paul. On ne peut pas invoquer le vocabulaire ni les idées, à mon avis. On ne peut invoquer que deux arguments. Si certaines épîtres de Paul font allusion à des événements qui manifestement supposeraient que Paul a vécu 120 ou 150 ans, naturellement, ce n'est pas de Paul. Ou si elles présentent un état de l'Église qui manifestement est impossible à cette époque-là, on peut en contester l'authenticité. Mais il ne faut pas, à mon avis, jouer sur le vocabulaire, les idées et les concepts. Parce qu'alors, on peut mettre en contradiction bien des auteurs. Alors, la phase de la révolte. Là aussi, vous avez un essai, un roman et une pièce de théâtre. C'est frappant de voir ces deux phases. Alors, l'essai 1951, c'est l'homme révolté, en gros 10 ans après le mythe de Sisyphe. Les Justes, la pièce de théâtre 1948 et La Peste 1947, un roman. Vous voyez là, on a l'homme révolté, on avait le mythe de Sisyphe. Là, on a les Justes, on avait le malentendu. Là, on a la peste, on avait l'étranger. Et Camus, dans cette étape, passe du « je » au « nous ». Le suicide, c'est « je ». Est-ce que je me suicide ou non ? Et dans L'homme révolté, c'est le nous dans la peste, c'est nous aussi, pour vous qui avez lu La peste, c'est le nous qui triomphe. Et dans L'homme révolté, il écrit, mais je crois que ça a souvent été mal interprété, je me révolte, donc nous sommes. Alors, on interprète ça en disant, je me révolte et je découvre que nous sommes, parce qu'il y a une solidarité qui se met en route, je découvre des frères, des amis, des camarades, des combattants et des partisans avec moi. Je me révolte, mais je ne suis pas seul. Donc nous sommes, ce n'est pas du tout ça. La phrase de Camus veut dire, si je me révolte, c'est qu'il y a un nous qui précède ma révolte. Je ne me révolterais pas si je ne le faisais pas au nom de quelque chose qui est un nous qui nous parle de l'homme. Alors, je ne sais pas que Descartes dit je pense donc je suis, dans quel sens il faut l'entendre. Est-ce que je pense, et alors c'est pour ça que je suis, ou si je pense, ça veut dire que je suis. En tout cas, chez Camus, c'est clair, je me révolte, donc nous sommes, donc il défend dans l'homme révolté une précédence de l'être humain par rapport à l'individu. C'est ce qu'il appelle une nature humaine. Il y a une nature humaine. C'est là où Sartre et Camus se sont opposés totalement. Donc il y a quelque chose qui précède ma révolte, une valeur, une nature humaine, et on trouve cela chez Paul Tillich, dans Le Courage d'être. Si vous voulez un parallèle avec un philosophe protestant et chrétien, Camus et Tillich parlent de ce courage d'être, parce qu'il y a un être qui nous précède, hein, alors que Bultmann et Sartre, eux, se méfient de l'être, ne croient pas, le voient toujours sous un angle négatif. L'être, c'est quelque chose de négatif, d'immobile, de fixe, de figé, qui nous emprisonne. Il faut sortir de l'être et c'est le dépassement de nos fixités. Alors, La Peste, bon, vous l'avez, je crois, tous lu ici quasiment. Vous vous rappelez que le roman, c'est une peste qui gagne une ville et toute une population. Là aussi, le soleil est très présent, ça se passe en Algérie. Et le héros du roman, c'est Rieux, le médecin, le docteur, qui est un athée. Et alors Sartre reprochait à Camus d'avoir choisi un symbole naturel pour évoquer le mal et la souffrance, parce que ça lui semblait justement donner trop de poids à ce qui est malgré nous. Donc la peste symbolise le mal, et Camus a buté toute sa vie sur le problème du mal. Le scandale du mal l'écarte finalement de la religion et de Dieu. Là, c'est vraiment la question de Dieu qui sera posée. Où Dieu existe et Dieu est mauvais, où Dieu n'existe pas et le monde est absurde. Comment concilier un Dieu bon et tout-puissant avec l'existence du mal? C'est une question qu'on s'est tous posée et qu'on a le plus grand mal à résoudre. Et ce qui le choque le plus, on le voit bien dans La Peste, mais sans cesse ça revient dans son œuvre, c'est la souffrance des innocents. Dieu est cruel ou indifférent. Et Rieux déclare à un moment, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se tait. Un ami de Camus raconte qu'un jour il descendait à Alger, des hauteurs autour d'Alger, et qu'à ce moment-là, il y a eu un enfant qui a été renversé par un bus et qui est mort. Et Camus a dit à cet ami, regarde, il se tait. Alors, il y a l'antithèse de Rieux dans La Peste, vous vous rappelez, c'est le père Panelou, hein, c'est le prêtre. Camus avait hésité, moi je crois qu'il a bien fait de ne pas le faire, à dire qu'à la fin du roman La Perse, après toutes ces horreurs, tout ce qu'ils ont vécu, Panloup perdait la foi. Mais je crois que ça aurait enlevé beaucoup de force à ce qu'il voulait faire entendre. Et Panloup ne perd pas la foi à la fin. C'est tout à l'honneur de Camus d'avoir maintenu quelque chose de très exemplaire chez ce père Panloup. Et il y a entre autres deux prédications, vous les rappelez peut-être, de Panloup dans La Peste. Dans la première, comme les amis de Job, en quelque sorte, Panloup accuse les hommes, disent, c'est votre faute s'il y a la peste. Les hommes sont coupables, vous êtes des pécheurs. Il faut faire son autocritique. La souffrance a pour nous une œuvre purificatrice et nous rapproche de Dieu. On pense à ces vers de Baudelaire qui sont horribles. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. C'est affreux ce truc-là, moi je trouve. Une fois, dans une conférence avec Ouzio, il a défendu ces vers-là. Enfin bon, Ouzio, il aime bien défendre la défendable. Donc, c'est la première prédication très classique dans le christianisme. Hein. Si vous souffrez, faut chercher le mal en nous. Hein. Voilà, c'est votre faute, c'est notre faute, c'est le péché originel, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Et puis, il y a une deuxième prédication de Panloup, où là, il ne prêche plus du tout les paroles des amis de Job, mais ce que dit Job, la protestation de Job. Et il interroge Dieu en disant, je suis innocent, il n'y a pas de raison de me frapper. Il faut renoncer à comprendre. C'est un peu ce que dit Panloup. Il faut un surcroît de foi, en quelque sorte, dans votre malheur, et aimer ce que Dieu veut, ce que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, c'est pas du. Il faut faire confiance. Ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas de la résignation. Si on lit attentivement cette prédication, on pourrait imaginer, si on la lit trop rapidement, bon, c'est une résignation, le fatalisme. Non, ce n'est pas ça. C'est une acceptation unie à une lutte contre le monde. Une acceptation active. Ce qui n'est pas seulement une passivité comme ça, le fatalisme. Hein. C'est une acceptation qui est un combat. Donc, se taire, dans un sens, il faut se taire. Dieu. Pour respecter un silence et un mystère, mais agir. Alors que lui, Rieux, se révolte, c'est sa mission d'être humain pour lui. Et au cœur de la peste, au milieu de la peste, il y a au centre de ce livre la mort de l'enfant du juge Othon qu'on essaye de guérir par un médicament et qui meurt. Il y a une ou deux pages terribles, très belles, très émouvantes, où on voit cet enfant qui souffre, qui est torturé par sa douleur et qui meurt, alors que son père, le juge, vous voyez, innocence et culpabilité, le juge est là, et Panelou est là, Rieux est là. Et alors, peut-être, murmure Panelou, peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons comprendre. Non, mon père, réplique Rieux, je me fais une autre idée de l'amour et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés. Ça, c'est la dominante camusienne de son refus d'une foi en Dieu. Ce que je hais, dit Rieux, c'est la mort et le mal, vous le savez bien, et que vous le vouliez ou non, nous sommes ensemble pour les souffrir et les combattre. Vous voyez, dit-il, en évitant le regard de Panloup, Dieu lui-même ne peut maintenant nous séparer. C'est une idée que j'ai souvent défendue pour aller dans le sens d'un christianisme pratique et social, qui nous rassemble, quelles que soient nos églises et quelle que soit notre foi ou notre non-foi. On peut être ensemble pour lutter contre les souffrances, les violences et les injustices. Et peu importe l'Église qui nous abrite ou la religion, la non-religion qui est la nôtre. Vous voyez, dit-il, en évitant de le regarder, des Dieu lui-même ne peut maintenant nous séparer. Alors, dans un dialogue qui suit la peste en 1948, hein, la peste c'est 1947, dans un dialogue en 1948 au couvent des Dominicains de la Tour Maubourg, ça vous dit quelque chose peut-être, c'est là qu'il y a les éditions du Cerf, hein. Au couvent des Dominicains de la Tour Maubourg, il est invité, Camus, à dialoguer avec les Dominicains dans une interview très importante. Après la peste, il y a eu un dialogue intense entre Camus et les chrétiens. Et voilà encore ce que déclare Camus. « Je partage avec vous la même horreur du mal, mais je ne partage pas votre espoir et je continue à lutter contre cet univers où des enfants souffrent et meurent. Nous ne pouvons pas empêcher peut-être que cette création soit celle où les enfants sont torturés, mais nous pouvons diminuer le nombre des enfants torturés, et si vous, c'est-à-dire vous, les chrétiens, ne nous y aidez pas, qui dans le monde pourra nous y aider ? » Dans ce dialogue très intense, j'y reviendrai, de Camus au couvent des Dominicains de la Tour Maubourg, il y a un moment où il se fait assez dur vis-à-vis du catholicisme au sujet du silence de Pie XII pendant la guerre. Justement, vous voyez, c'est toujours la même thématique. Et il dit, on m'a expliqué depuis que cette haute voix, cette grande voix de Rome avait parlé. Il dit, une parole que personne n'entend, condamne que celui qui la prononce. Il le dit carrément là. Donc, cette lutte se veut positive, active, ça révolte est quelque chose de tout à fait positif, constructif, c'est pas nihiliste. Et c'est ce qu'on retrouve dans Les Justes, ceux d'entre vous qui ont vu ou entendu Les Justes. Et dans les Justes, vous savez, il y a ceux qui appellent, dans l'homme révolté, il en parle, hein, de ce drame des Justes, les meurtriers délicats. Les meurtriers délicats, ce sont ces héros, surtout Kalaïev, hein, dans Les Justes, qui doit tuer le grand-duc Serge. Hein. C'est l'histoire d'un attentat. Et Kalaïev, le héros révolutionnaire qui veut tuer le grand-duc Serge, au moment où il doit lancer sa bombe sur la calèche, voit qu'il y a derrière le grand-duc les enfants, des enfants du grand-duc, et il ne lance pas sa bombe à cause des enfants. Vous voyez, on est là dans cette thématique, il tuera le grand-duc un autre jour, mais pas ce jour-là où il y avait des enfants. Et c'est très frappant de voir que dans l'athéisme de cette époque, le thème de la souffrance des enfants, donc des innocents, est un argument sans cesse repris contre Dieu. Je vais vous lire un texte c'est encore la Guadeloupe, là. Je vais vous lire un texte de Gide dans son dernier livre, qui est le premier que j'ai lu de lui, « Ainsi soit-il où les jeux sont faits ». C'est les dernières pages de son journal, et c'est paru après sa mort. Hein. Et il écrit au jour le jour, et là-dedans, tout au début, « Ainsi soit-il où les jeux sont faits hein. ». Je devais avoir à peu près 14 ans lorsque je fis la connaissance de l'horreur. C'était place Saint-Sulpice, laquelle en ce temps était pavée. À quelques mètres de moi passe un camion de l'époque tiré par des chevaux. Hein. Un gosse d'une douzaine d'années a trouvé le moyen de se faire trimballer à l'œil en se juchant à l'arrière du véhicule où le cocher ne puisse le voir. Il en a son content de ce voyage, veut descendre, saute, mais reste accroché par la blouse. De sorte que son élan rompu, le voici qui retombe brutalement tiré en arrière, donnant du front sur le pavé. Des passants qui se sont rendus compte de l'accident crient, gesticulent, tentent d'arrêter le conducteur qui, lui, ne s'est rendu compte de rien et fouettent son cheval au trot. De pavé en pavé, le crâne du malheureux petit rebondit. En vain cherche-t-il à le protéger avec ses bras, mais il a dû perdre connaissance presque aussitôt. Lorsque 30 mètres plus loin, le camion consent à s'arrêter car quelqu'un s'est enfin jeté à la tête du cheval, le visage de l'enfant n'est plus qu'une sorte de bouillie sanglante. À l'âge que j'avais, donc 14 ans. Hein. Je crois que cette horreur m'a fait beaucoup douter du bon Dieu. Par la suite, on a beaucoup travaillé au replâtrage en moi de la divinité Providence. Et de moi-même, j'étais tant bien que mal parvenu à la restaurer. Au surplus, ce n'est pas sur ce plan qu'elle est ou que je la sens la plus sujette à caution. Depuis ce temps, nous avons été saoulés d'horreur, au point que ce mince fait divers risque de faire hausser les épaules auprès des atrocités de la guerre, de ce grand chavirement de toutes les valeurs qui demeuraient pour nous des raisons de vivre. C'est impressionnant, ça. Hein? C'est au début de son dernier livre. Mais Sartre, qui n'a pas du tout le même genre d'athéisme que Camus ou que Simone de Beauvoir ou que Gide, est dans une interview qu'il donne dans Le Monde en avril 1964, dit ceci, c'est très étonnant sous la plume de Sartre, « Ce qui me manquait, il parle de son évolution et de ce qu'il a découvert, ce qui me manquait, c'était le sens de la réalité. J'ai changé depuis, j'ai fait un lent apprentissage du réel, j'ai vu des enfants mourir de faim, en face d'un enfant qui meurt de faim, la nausée ne fait pas le poids. » La nausée, donc son roman, La nausée. Voilà, je crois qu'on a un peu fait ce parcours. Alors, quatre remarques de conclusion. La première, c'est que l'œuvre est inachevée, hein, de Camus, bien sûr, et que les deux livres qui vont suivre ceux que j'ai évoqués là sont La Chute. Je crois que quelqu'un d'entre vous l'a lu, non ? La Chute. Tu l'as lu. 1956, c'est l'histoire d'un avocat. La Chute, vous voyez, la référence chrétienne est évidente, hein, La Chute. Il pose le problème innocence ou culpabilité, donc avec justement la justice. Et puis le dernier livre qu'on a trouvé dans sa sacoche, la voiture accidentée à sa mort, c'était Gallimard, hein, qui conduisait la voiture, c'était pas lui. Le roman s'appelle Le Premier Homme, vous voyez, La Chute, Le Premier Homme, on voit bien. Quel était le dialogue qu'il établissait et le nouveau cycle qu'il commençait. Mais là, on a deux romans, on n'a pas d'essais, on n'a pas de pièces de théâtre pour cette dernière étape. Donc ça serait ma première remarque. Il meurt en 1960, il a eu le prix Nobel en 1957. Ceux d'entre vous qui voudraient, sans lire l'œuvre de Camus, mais voir un peu un parcours qui balaye toute cette œuvre, je vous conseille son livre qui s'appelle « L'été ». Vous voyez, toujours le soleil, l'été, la mer, l'été, 1954, parce que c'est constitué de différents textes de Camus qu'il a écrits, quasiment de noces à l'homme révolté. Ça permet de suivre cette évolution camusienne et plus particulièrement son athéisme. Alors, deuxième remarque, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il est vraiment athée, mais en tout cas, il est agnostique. Et c'est ce qu'il déclare au couvent des Dominicains de la Tour Maubourg, je vous le cite, « Je veux déclarer encore que ne me sentant en possession d'aucune vérité absolue et d'aucun message, je ne partirai jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire, mais seulement de ce fait que je n'ai pas pu y entrer. » Ça, c'est ce que j'appelle l'agnosticisme. Il ne dit pas « les croyants ont tort ». Il dit « je ne suis pas croyant ». Et donc, moi je dis que les véritables croyants, les chrétiens, sont des agnostiques aussi. On dit « je crois en Dieu, mais je ne sais pas s'il existe ». L'agnostique athée dira « je ne crois pas en Dieu, mais je ne sais pas s'il existe ». Il y a ce jeu entre la foi et le « je ne sais pas ». Et alors, il dit dans ce texte avec les Dominicains, dans ce dialogue, « Le monde d'aujourd'hui réclame des chrétiens qu'ils restent des chrétiens ». Alors, troisième remarque de conclusion, c'est la question du pessimisme et du désespoir. Je crois qu'on le pense moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, on a estimé que quelqu'un qui n'était pas croyant était un désespéré. Et lui a passé son temps à dire, je ne suis pas du tout désespéré. C'est pas parce que je ne crois pas en Dieu ou en l'au-delà que je suis désespéré. N'avoir pas d'espoir, ça ne veut pas dire qu'on est désespéré. C'est ce qu'il essayait de souligner. Il reproche aux chrétiens, eux, d'être des désespérés. Et ça, je l'ai souvent dit, hein. Croire aux peines éternelles, il n'y a rien de plus désespérant que ça. Moi, je ne connais pas de philosophie plus désespérée que celle de la foi chrétienne affirmant l'enfer et les peines éternelles. Si c'est ça le christianisme, je préfère être athée. Moi, personnellement, je n'hésite pas une seconde, hein. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation des peines éternelles? Et voilà ce que Camus déclare, alors, toujours au couvent des dominicains. Oh, cette fois, ce n'est pas la Guadeloupe. C'est l'Afrique. Voilà ce qu'il déclare. De quel droit d'ailleurs un chrétien m'accuserait-il par exemple de pessimisme? Ce n'est pas moi qui ai inventé la misère de la créature, ni les terribles formules de la malédiction divine. Ce n'est pas moi qui ai crié ce nemo bonus, donc personne n'est bon, ni la damnation des enfants sans baptême. Ce n'est pas moi qui ai dit que l'homme était incapable de se sauver tout seul et que du fond de son abaissement, il n'avait d'espérance que dans la grâce de Dieu. Ben, il me semble qu'il a raison. J'entends ce genre de protestation. Et puis, quatrième et dernière remarque, bon, il y a un humanisme chez Camus, mais un humanisme très modeste, hein, une défense de l'être humain, mais pas une idée exaltante de l'être humain, parce qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il voudrait faire de l'être humain un Dieu. Pas du tout, du tout, hein. C'est quelque chose de très modeste. Dans la peste, vous vous rappelez peut-être qu'il écrit ces mots magnifiques, c'est à la fin de la peste, hein. On apprend au milieu des fléaux qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. C'est assez beau cette affirmation, il essaye de le montrer dans la peste, et dans L'homme révolté, c'est aux toutes dernières pages de L'homme révolté, apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. Apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. Si on proposait cette citation à des gens en leur disant qui a écrit cela, j'aimerais bien avoir des réponses, hein. Parce que je ne suis pas du tout sûr que les gens penseraient à Camus. Apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu.